La catéchèse du Père Directeur.
Bonjour à vous tous et bienvenue à cette catéchèse. Bonjour Père Roger.
Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Nous continuons la série des enseignements sur la prière.
Enseignements sur la prière. Hein. Avant le déplacement, nous avions parlé de la prière de demande, de supplication, hein, qui sont des prières sœurs, hein, pour ne pas dire très proches. Demande et puis supplication. Supplication, c'est une demande caractérisée par l'intensité. Et aujourd'hui, nous abordons deux autres formes de prière qu'on peut facilement confondre, hein, mais qui sont quand même différentes, adoration et louange.
Des précisions après la prière. Merci à Clément Moulopo pour ces cantiques à l'esprit. Père, vous avez la parole pour les enseignements.
Merci beaucoup. Maman Régine, merci à vous tous, hein, qui êtes branchés sur la fréquence mariale en ce moment. Adoration et louange, deux formes de prière qui existent bel et bien dans l'Église catholique. Hein. Nous allons, pour chaque prière, vous proposer la doctrine catholique à travers ce qui est prévu dans les catéchismes de l'Église catholique, hein, avant de développer, d'aller en profondeur. Donc nous avons d'abord l'adoration. Voilà ce que dit le catéchisme. Hein. Les gros formants du numéro 2096 au numéro 2097, ou bien 2096 jusqu'à 2097, si vous voulez. Et voilà ce qui est dit. L'adoration est le premier acte de la vertu des religions. Adorer, c'est le reconnaître comme Dieu, comme Créateur, le Seigneur de tout ce qui existe, comme l'amour infini et la miséricorde sans limite. Adorer Dieu, c'est le reconnaître et le servir en toute humilité. Donc, l'adoration, selon les catéchismes, c'est une prière qui nous permet de reconnaître Dieu comme étant le Créateur, comme étant souverain, comme étant transcendant, et nous reconnaître nous-mêmes comme étant des pauvres créatures en toute humilité. C'est ça l'adoration. Reconnaître Dieu comme créateur, comme souverain, comme transcendant, et nous reconnaître comme étant ces créatures qui dépendent de lui. Ça, c'est ce qui vient du catéchisme de l'Église catholique. Alors concrètement, il s'agit de quoi ? De par l'étymologie du mot « adoration », qui vient de adoratio, latin, qui signifie porter la main à la bouche. C'est ça ce que veut dire adorer de façon étymologique, c'est-à-dire porter la main à la bouche, vous mettez la main sur la bouche et puis vous tendez la main vers quelqu'un. C'est comme qui dirait aujourd'hui, vous faites une sorte de bisou, hein. Main sur la bouche, vous orientez la main vers quelqu'un pour dire que voilà, je vous rends hommage, je vous vénère, hein, c'est ça. Étymologiquement, hein, du point de vue langue latine, ce que signifie adorer. Mais ce qui est plus important, c'est que cette attitude-là, mettre la main à la bouche et puis l'orienter vers quelqu'un pour lui rendre hommage, Et ça caractérise la prière d'adoration du point de vue d'attitude de silence. Parce qu'on dit qu'il s'agit de mettre la main à la bouche. Quand on met la main à la bouche, c'est qu'on ne peut pas parler, on se tait pour rendre hommage à quelqu'un. Donc on rend hommage dans le silence, dans les méditations, c'est ça l'adoration. Et du point de vue l'étymologie hébraïque puis grecque, hein, en grec c'est proskuneo, c'est-à-dire se prosterner. Donc adorer en hébreu comme en grec, hein, du point de vue texte biblique, partant des textes bibliques, ça signifie s'incliner profondément, se courber. Et ça va parfois jusqu'à s'agenouiller, la tête contre le sol. C'est ça, adorer. Donc, dans tous les cas, que ce soit du point de vue étymologie latine ou bien dans le contexte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, adorer, c'est plus une attitude. Il n'y a pas tellement de mots quand on adore, c'est plus une attitude du cœur. Comme dira saint Augustin plus tard, quand on adore, le cœur est tourné vers Dieu. On tourne le cœur vers Dieu pour le détacher des idoles de ce monde. C'est-à-dire lorsque le cœur se tourne vers Dieu, oubliant, se détachant des idoles de ce monde, c'est ça la véritable adoration. Donc, c'est une sorte de prière qu'on adresse à Dieu pour l'honorer, pour reconnaître sa souveraineté, comme je disais tout à l'heure, et tout en se reconnaissant comme une pauvre créature. L'objectif de l'adoration, c'est justement découvrir en profondeur la grandeur de Dieu, sa souveraineté sur le monde, sur l'univers et sur notre vie. L'attitude qui accompagne l'adoration, c'est le silence, c'est l'humilité, la méditation. Un silence, humilité et méditation. Humilité parce que justement, dans le contexte hébraïque et grec, adorer signifie se courber. Se courber profondément devant Dieu pour reconnaître sa seigneurie dans nos vies et même dans le monde. Et le silence, parce que bon, il n'y a pas de mots. L'adoration est comme cela, même s'il y a des chants d'adoration. Par exemple, l'adoration eucharistique est accompagnée des chants. Mais s'il y a chants, les chants doivent être méditatifs pour l'adoration. Ça doit être vraiment des cantiques de méditation, pas des cantiques de ferveur, qui caractérise plutôt la louange dont nous parlerons tout à l'heure. Donc c'est ça en fait l'adoration comparativement à la louange. C'est vraiment une prière silencieuse, une prière méditative. S'il y a des paroles, ça doit être des paroles méditatives. S'il y a des cantiques, ça doit être des cantiques méditatifs et tout orienté vers la reconnaissance de la grandeur de Dieu, de sa seigneurie, de sa souveraineté, d'adorer comme créateur. Et les psaumes par excellence d'adoration, c'est le psaume 8, hein? Un psaume qui est très très intéressant parce que ça nous montre ce que signifie adorer. Hein? C'est le psaume où on reconnaît évidemment que Dieu est le créateur, c'est lui qui a fait toutes choses. Et il a même créé, hein? Il a fixé les luminaires qui sont dans le ciel avec ses mains. Avec ses doigts, pardon, ça montre qu'il est vraiment, il est celui qui a créé, il a créé comme un petit rien. Donc, au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, jusqu'au ciel ta splendeur est chantée. Ça, c'est vraiment l'adoration. Par la bouche des enfants, des tout petits, rempart que tu opposes à l'adversaire. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Donc, on adore le Créateur en contemplant la création. Dans ce psaume, hein, psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Là, l'homme se reconnaît comme pauvre créature. Comme je disais, dans l'adoration, on proclame la seigneurie de Dieu, on le reconnaît comme souverain, comme créateur, tout en se reconnaissant comme pauvre créature en toute humilité. Et là, vous avez, au verset 5e du psaume 8, hein, la confirmation de ce que je viens de dire. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci ?» Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu le couronna de gloire et d'honneur. Donc l'homme n'est rien. Devant la grandeur de ta création, de tout ce qu'on voit dans le ciel à travers le monde, on reconnaît que c'est toi qui es le créateur, qui es souverain, et nous, nous sommes des pauvres créatures. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'établis sur l'œuvre de ta main, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux dans le ciel, les poissons dans la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux, au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ça, c'est les psaumes par excellence d'adoration. Il y a des psaumes d'adoration, il y en a par-ci, par-là, dans les psautiers, mais les psaumes 8, c'est vraiment un psaume qui décrit l'adoration dans les contextes bibliques et qui nous permet de comprendre le sens chrétien de cette prière d'adoration aujourd'hui. La prière de louange maintenant. Alors la louange, en fait, c'est quand l'adoration débouche sur une certaine ferveur spirituelle, au lieu de se taire, au lieu de rester silencieux, méditatif, on commence à proclamer cette grandeur de Dieu à travers des cantiques de louange. Et donc, c'est un peu ça. Alors, dans la louange, hein, on va voir ce que dit le catéchisme tout de suite là, avant de continuer. Alors, le catéchisme de l'Église catholique dit ceci, de la louange. Et la louange, en fait, nous permet de louer Dieu pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il fait. Et donc, dans l'adoration, on reconnaît Dieu pour ce qu'il est, comme créateur. Mais dans la louange, on le reconnaît, et on reconnaît sa grandeur pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Il y a une note de plus qui s'ajoute dans la louange, parce qu'on voit aussi ce qu'il a fait. Même si dans l'adoration, bon, on ne peut pas ne pas parler du créateur sans parler de ce qu'il a fait. Mais l'adoration se penche plus sur ce que Dieu est, sur sa nature. Mais dans la louange, il y a la nature de Dieu, ce qu'il est, mais aussi ce qu'il fait. Alors, le catéchisme dit ceci à propos de la louange, hein, au numéro 2639 jusqu'au numéro 2643, la louange est la forme de prière qui reconnaît d'abord que Dieu est Dieu. Elle ne demande rien, elle exalte Dieu pour lui-même, pour sa gloire, sa bonté, sa sagesse, sa puissance, sa fidélité. Et bon, le catéchisme donne l'exemple hein, des prières de louange dans le Nouveau Testament. C'est par exemple le Magnificat. Ça, c'est une prière de louange. Et puis même le cantique de Zacharie et des cantiques qu'on trouve dans les lettres de Paul, des hymnes qu'on trouve chez Paul hein, dans ses lettres, sont des cantiques de louange. Et n'oublions pas, dans la messe, il y a les grands cantiques de louange. C'est les Gloria. Le Gloria, ça c'est un chant de louange qui figure dans l'Eucharistie. Et là, on voit que la louange, c'est tout différent de l'adoration. L'adoration qui est méditative, silencieuse, mais la louange, c'est vraiment, il faut louer, il faut chanter avec ferveur. Et dans notre contexte, on doit être debout, on doit exhiber parfois des pas de danse. On va acclamer Dieu par des mains et par d'autres mouvements du corps, ainsi de suite. Ça, c'est la louange. Alors maintenant, dans le contexte biblique, la louange est très importante parce que dans le contexte biblique, l'adoration, c'est plus une attitude simplement. C'est-à-dire la fête devant la divinité, la fête de Ishtahava, je crois que c'est en hébreu, ou bien proskuné en grec, c'est-à-dire vous vous courbez profondément. C'est ça l'adoration. Il n'y a pas tellement de paroles dans l'adoration, mais dans la louange, il y a des paroles. Alors, vous avez chez les juifs ce qu'ils appellent « Hallel ». Hallel a donné lieu au mot Alléluia. Alléluia signifie louer, louer Yahvé, louer Yah, louer le Seigneur, louer Adonai. Et ça signifie la louange dans la liturgie juive. Hein. Il distingue le petit Hallel, entendu par Hallel louange, et les grands Hallel sont deux choses différentes. Petit Hallel, ce sont des psaumes. Les psaumes qui commence à partir de 113 jusqu'à 118, hein, ils appellent ça petit hallel, c'est-à-dire on rappelle quand même les merveilles de Dieu en le louant. Et grand hallel, le psaume 135, c'est vraiment une description de toute l'histoire du salut. C'est la description de toute l'histoire du salut dans le psaume 135, ça c'est le grand hallel, c'est-à-dire la grande louange si vous voulez. C'est le psaume 135 et puis d'autres louanges, vous les avez à partir des psaumes 113 jusqu'à 118 hein, dans les canons hébraïques. Dans les canons latins, adoptés souvent par des bibles catholiques, c'est 112 jusqu'à 117, les petits hallels, et puis les grands hallels, c'est 134. Alors, l'attitude quand on loue, eh bien, c'est la joie. La joie. La louange se caractérise par la joie. L'adoration, c'est la méditation, c'est le silence. Et la position adaptée à la louange, hein, c'est être debout. Pour l'adoration, on peut s'agenouiller si on peut, on peut se prosterner, on peut aussi rester assis quand on adore. Ça dépend aussi de votre santé. Mais pour la louange, en principe, on est debout, on chante. La gloire de Dieu est debout. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ces deux formes de prières, adoration et louange, qui sont des prières très importantes parce que ce sont des prières qui nous permettent de découvrir qui est Dieu. Le vrai Dieu que nous adorons, qui est-il? Le vrai Dieu que nous louons, qui est-il? Et puis dans la louange aussi, on le loue pour ce que, non seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Et la louange s'exprime avec beaucoup de ferveur. Alors, l'adoration, en tout cas, c'est... Bon, adorons le Seigneur par des chants. Souvent, quand on dit ça, ce sont plutôt des louanges, ce n'est pas l'adoration. Et donc, ce sont des choses peut-être qu'on va approfondir à travers des questions et des réponses. L'adoration est méditative, silencieuse. Et la louange, c'est lorsqu'on passe du silence à la ferveur spirituelle, à une piété fervente en louant Dieu par des chants appropriés.
Merci beaucoup, Père, pour ces enseignements. Nous allons suivre un peu de musique avant de recevoir les questions des auditeurs.
Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair.
Merci à Clément Moulopo pour ses chants. Alors, Père Jean se pose la question, c'est l'adoration ou bien c'est la louange?
Ça, c'est l'adoration. Je félicite, je ne sais pas qui l'a choisi.
C'est Clément.
Oui. Félicitations à Clément, coaché par Maman Régine, certainement. Je ne m'attendais pas à ça. Ça, c'est l'adoration. Et évidemment, bon, dans certains cas, on va dire, bon, c'est la louange. Mais en réalité, c'est l'adoration. Parce que c'est un cantique méditatif et puis... Dans le contenu, on fait recours à la création. On reconnaît Dieu comme créateur, on évoque les éléments de la nature, tout ça, les oiseaux qui chantent. Ça, c'est l'adoration, surtout de par le ton qui est méditatif.
Bonjour, Père Roger. Est-ce que ces psaumes de louange-là ne concernent pas Jésus fait homme? Parce que nous voyons que Jésus s'est fait aussi serviteur. Votre explication, c'est Marcel depuis Saint-Marc.
Évidemment, hein, merci à Marcel depuis Saint-Marc. Dans le contexte du Nouveau Testament, bon, on a christianisé l'Ancien Testament, c'est-à-dire on lit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. On considère ce qui est dit dans l'Ancien Testament comme des préfigurations du Christ. Moïse préfigure le Christ, Isaïe préfigure le Christ, le serviteur souffrant d'Isaïe, c'est la préfiguration du Christ, Élie, c'est la préfiguration du Christ, les louanges adressées à Dieu, et dans les psaumes de louanges, dans le petit allèle et le grand allèle, elle préfigure nos louanges adressées à notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est vrai. Hein, donc, dans le contexte du Nouveau Testament, on dit que bon, ce qui est dit dans l'Ancien Testament, eh bien, préfigure ce que nous disons de Jésus-Christ.
Ndeko Dadi Mensa, depuis Saint-Léonard, bonjour ma radio. Nous voyons des pasteurs dans des marchés, des grandes avenues de Kinshasa, en train de prêcher et prier là où il y a des bruits. Cette prière peut être exaucée?
Bon, ça dépend de Dieu, ça dépend de la foi de celui qui prie. Évidemment, la prière ne doit pas déranger le voisin. Ça, c'est vrai. Et il ne faudrait pas que la prière dérange. Et puis, Dieu aime l'ordre, même les Juifs eux-mêmes. N'oublions pas que nous sommes de la culture judéo-chrétienne ou de la tradition judéo-chrétienne. Et nous devons voir ce qui se faisait dans l'Ancien Testament et ce qui se fait dans le Nouveau Testament. On a toujours distingué les deux choses, la prière et le travail. Au marché, les gens sont en train de travailler. Ils sont allés vendre, ils sont au travail. Et puis ceux qui viennent acheter, ils sont venus acheter, ils ne sont pas venus pour prier. Ne me considérez pas comme païen, mais je veux qu'on respecte l'ordre qu'il y a dans la société. On ne peut pas prier partout, à moins que vous priez dans votre cœur. Bon, on ne peut pas prier partout, on ne peut pas se présenter dans un bureau, vous venez me voir, vous dites, bon, même si je suis prêtre, bon, maintenant nous allons prier. Et vous prenez 10 minutes ou 15 minutes, j'ai dit non, je suis en train de travailler maintenant. J'ai déjà prié le matin, je peux faire une petite prière. Quand je reçois des gens, une prière d'une minute tout au plus. Si quelqu'un vient parce qu'il a un problème, bon, il faut prier pour lui, ça peut prendre peut-être un peu plus de temps. Mais on ne peut pas prier à tout moment. Et donc, au marché, les gens sont partis travailler. Ce n'est pas l'endroit indiqué pour prier. Et ce n'est pas l'endroit indiqué pour prêcher non plus. Laissez les gens travailler. Il y a des moments de prière. Et vous qui avez comme tâche, n'est-ce pas, de prêcher la bonne nouvelle, eh bien, sachez que, bon, il y a des moments où vous allez prêcher ça. Vous avez vos temples ou églises, les gens viennent vous prêcher. Vous avez aussi d'autres cadres pour prêcher. Ne prêchez pas partout. Parce qu'il y a des cadres où les gens vont pour travailler. Et les Juifs avaient organisé les temps. Il y avait ce qu'on appelle la sanctification de la journée à travers des moments de prière. On ne pouvait pas prier n'importe où. Les Juifs prient le matin, à midi, il y a un stop, il prie aussi à midi. Vers 15h, il s'arrête pour prier, puis le soir aussi, il va prier. Avant de dormir, donc il y avait des heures de prière. Et c'est ce que l'Église a gardé aujourd'hui comme tradition à travers la liturgie des heures. Vous allez voir, par exemple, dans les Actes des Apôtres, la prière de la 9e heure, c'est-à-dire à 15h. Mais on ne peut pas prier à tout moment, on ne peut pas prier partout. Parce qu'il y a des endroits où c'est des travails et on doit travailler. Il ne faut pas aller là-bas pour commencer à exhorter les gens à temps à contre-temps. Time is money, le temps c'est l'argent. Donc laissez les gens travailler parce que c'est en travaillant qu'on contribue au développement de la société. On ne peut pas construire la société seulement en priant. Non, non, non. Il faut prier mais il faut aussi travailler.
Nous continuons cette catéchèse dans sa version question-réponse interactive. 081 99 66 0 98. Nous prenons le message de Arsène Eka. Merci pour cette catéchèse. Les salutations au Père Roger et Maman Régine. Première question, la louange peut-elle se faire dans les silences ou uniquement dans le bruit? Car telle est la conception répandue chez le chrétien.
Non, la louange ne se fait pas dans le bruit, mais ça se fait à travers des cantiques fervents, des cantiques à travers lesquels on exprime la joie et la gratitude. C'est pas le bruit. C'est pas le bruit, parce qu'il y a un certain ordre. Les gens sont en train de prier avec les mêmes paroles, les mêmes mots, parfois les mêmes gestes, et donc il n'y a pas de bruit. C'est une prière hein, qui est très harmonieuse. C'est pas le bruit. Mais évidemment, est-ce que la question pourrait être aussi celle-ci, est-ce qu'on peut aller faire de louanges au marché? Là, je dis non. Au marché, les gens vont travailler. Ils ne vont pas pour... s'il y a la musique, bon, ça va, la musique de louanges ou d'adoration, ça peut passer. Il y en a qui, parfois, préfèrent travailler comme ça en écoutant un peu de musique religieuse. Mais il ne faut pas s'improviser là-bas pour chanter ou avec la guitare ou quoi, parce qu'il faut laisser les gens travailler. C'est en travaillant qu'on va construire le pays.
L'adoration et la louange sont-elles obligatoirement conditionnées par le kyrie au préalable?
Ah oui, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a toujours un préalable? En général, c'est ça, il y a toujours un temps de méditation pour essayer de se purifier intérieurement. Ça, c'est au début de toutes nos prières. Hein. Au début de la messe, il y a l'acte pénitentiel. Et au début de l'adoration, il y a aussi toujours un peu de moment pour se présenter devant Dieu comme pécheur et puis implorer la grâce de Dieu. Malgré mon état de pécheur, donne-moi la grâce de t'adorer. Hein, donne-moi la grâce de t'adorer. Fais que mon cœur se tourne vers toi pendant que je t'adore et que mon cœur se détache des idoles de ce monde. Donc ça, c'est, ça vous prépare à l'adoration et ça peut aussi se faire avant la louange.
L'adoration répond-elle à un besoin divin ou sert-elle uniquement à notre sanctification? Je prends l'exemple, nous le voyons partout, un non-croyant, mais qui, après s'être sorti d'une situation compliquée, s'écrie « Gloire à Dieu » juste comme exclamation. Mmh. Ici, Père, la prière est faite par ignorance, mais est-ce que cela a un mérite devant Dieu?
Mmh. Eh bien, l'adoration comme la louange, hein, c'est des prières qui nous font tourner vers Dieu. Il y a, dans l'une de nos préfaces, hein, il y a ceci, on dit quelque part, « Nos chants et nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi. » Ça, c'est bien dit. On définit à travers ces mots l'objectif d'une prière d'adoration et de louange. En fait, qu'est-ce que ça ajoute à Dieu? Est-ce que Dieu a besoin que nous l'adorions? Il n'en a pas besoin, mais l'adoration nous rapproche de lui, permet à nos cœurs de se tourner vers lui. Et évidemment, bon, pour lui, il peut ne pas être content quand nous l'adorons. Il en est content. Et puis, nous recevons la grâce de la transformation intérieure dans une prière d'adoration. Parce que, ça, je reviens sur l'expression d'Augustin qui dit que durant l'adoration, eh bien, nos cœurs se tournent vers Dieu. Nous recevons la grâce de tourner nos cœurs vers Dieu et de faire en sorte que nos cœurs se détachent des idoles de ce monde. Parce qu'on peut se demander où se trouve le cœur. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, dira Jésus. Mais le cœur est attaché à quoi? À Dieu. Le cœur, votre cœur est tourné vers Dieu, ou bien c'est encore accroché aux idoles de ce monde. Argent et autres idoles. Et donc, l'adoration nous donne cette grâce-là, hein, de détacher nos cœurs des idoles de ce monde pour les tourner vers le Seigneur. Et même aussi la louange, hein, ça nous rapproche de Dieu parce que la louange a aussi comme grâce la communion avec Dieu. Et ça nous permet évidemment de nous sanctifier parce que quand on s'approche de plus, on s'approche de Dieu, plus on se sanctifie.
Un message de Mayani depuis Lubumbashi. Bonjour, j'étais dans une situation très difficile. J'ai longtemps prié en vain. J'ai finalement opté pour un programme d'adorer chaque jeudi le Saint-Sacrement. Dieu m'a exaucé. L'adoration est-elle la prière par excellence? Si oui, alors c'est elle qui va terminer la guerre au Congo.
Merci beaucoup. Hein. Bon, il y avait une partie de la question dans l'intervention de l'autre auditeur hein, qui a précédé celui-ci. Donc, quelqu'un qui s'exclame « Gloire à Dieu ».
Oui, après...
Oui. Bon, est-ce que c'est un tic ou bien il l'a dit parce qu'il croit?
Juste après avoir traversé des moments difficiles.
Oui, il dit
«
Gloire à Dieu ».
Il dit « Gloire à Dieu ».
Est-ce qu'il est dit comme un tic social, c'est-à-dire comme ce que les autres, il a entendu c'est chez les autres, puis lui, il reproduit cela? Ou bien il le dit parce que ça vient du fond de son cœur. Il croit que c'est Dieu qui l'a accompagné. Et donc, si c'est parce que ça vient du fond de son cœur, il croit que Dieu l'a assisté, alors ça devient une louange. C'est une louange spontanée. Quand on dit « Gloire à Dieu », eh bien, « Gloire » c'est lié à la louange. C'est comme les chants de gloria pendant la messe. Hein, nous chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ça, c'est un chant de louange qui caractérise la prière de louange dans le contexte de l'Eucharistie. Alors, oui, l'adoration comme la louange nous font obtenir des grâces. C'est-à-dire, quand on adore, tout comme quand on loue, on ne demande rien à Dieu. On ne demande pas de faveur. L'unique faveur qu'on demande, c'est justement de l'adorer comme il faut ou de le louer comme il faut. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais, de par l'expérience, comme dit notre frère, et il n'est pas le seul, et beaucoup témoignent du fait que, bon, voilà, j'adore et pendant que j'adorais, j'ai été guéri. Pendant que j'adorais devant le Saint-Sacrement, j'ai été guéri. Et pourtant, tu n'as pas demandé la guérison. Tu as demandé seulement la grâce d'adorer. Parce que l'adoration te rapproche de Dieu. Et quand tu es proche de Dieu, tu reçois des grâces même auxquels tu ne pensais pas. De même aussi la louange, hein, nos chants et nos louanges n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, et donc la louange nous rend aussi proches de Dieu, nous fait entrer en communion avec Dieu, et par conséquent on reçoit des grâces qu'on n'a peut-être pas demandées ou auxquelles on ne pensait pas.
081 99 66 098. Bonjour Maman Régine, bonjour Père Roger. Merci pour la catéchèse du jour. On dirait que nous ne sommes pas habitués au silence. Nous n'avons pas la culture du silence, c'est pourquoi il nous est difficile d'adorer en silence. Mmh. Nous nous tournons facilement vers la louange, mmh, et quand bien même nous faisons semblant d'adorer, mmh, nous sommes perdus dans d'autres problèmes ou préoccupations, mmh, qui nous éloignent de la prière. C'est, mmh, Maman Odette Ngoye.
Merci beaucoup, hein, à Maman, pour Maman Professeur. C'est vrai que bon, on a perdu un peu la culture du silence, hein, qui doit caractériser certains moments de nos prières en tant que catholiques. Et ce que moi je propose, c'est que comme les gens ne sont pas habitués à prier en silence, mais il y a lieu de faire, d'organiser des moments d'adoration avec des cantiques d'adoration, qui sont des cantiques méditatifs. On n'aura pas à se mettre debout pour acclamer Dieu, mais on reste en silence, on écoute ces cantiques de méditation qui sont des cantiques d'adoration. Je voudrais dire qu'en fait, notre frère Jules Deschamps, bon, sans évoquer d'autres musiciens aussi, mais Jules Deschamps a souvent des cantiques d'adoration. Hein, souvent, c'est l'adoration. Ces cantiques sont souvent des cantiques d'adoration. Jules Deschamps, et donc, pas, c'est un cas. Après, il y a d'autres exemples aussi qu'on peut évoquer. Et donc, il y a des moments où qu'on peut organiser, hein, dans nos paroisses, dans nos communautés. On dit, bon, nous allons aujourd'hui adorer pendant une heure. Le Saint-Sacrement est là. On prend des moments de silence. Et puis par moment, on met des cantiques de méditation, et ainsi de suite. On dit aujourd'hui, qui veut s'agenouiller, s'agenouiller, qui veut rester assis, on adore. Et puis un autre jour, on dit aujourd'hui, nous allons louer. Mais parfois, les deux peuvent aussi se suivre. Nous adorons d'abord en silence dans la méditation. Après 20 minutes, 30 minutes, bon, maintenant nous allons louer Dieu. Comme ça, on éduque les gens à comprendre et assimiler les différentes formes de prière. Parce que n'oublions pas que si nous négligeons certaines formes de prière, nous nous appauvrissons. Le patrimoine de l'Église, hein, doit être préservé et puis promis par vous et moi, qui sommes des catholiques. Et donc, l'Église catholique encourage toutes ces formes de prières-là. Il ne faudrait pas que nos prières soient seulement des supplications, des demandes. Il faut que ce soit aussi des prières d'adoration, des prières de louange, qui ne sont pas loin des prières de demande. Parce que des grâces qu'on reçoit dans une prière de demande ou de supplication, on peut aussi les recevoir pendant l'adoration, tout comme pendant la louange. Notre frère de Lubumbashi l'a témoigné tout à l'heure. Et dans les Actes des Apôtres, les apôtres sont libérés de la prison parce qu'ils chantaient des psaumes de louange. Certainement, c'était des allèles, grand allèle ou petit allèle, dont les psaumes soit de 113 jusqu'à à 118 ou bien 135, ce sont des psaumes de louange, hein, que les Juifs aimaient à l'époque. Certainement, ils étaient en train de chanter, hein, les petits allèles ou les grands allèles, hein, ces psaumes-là, juste pour louer Dieu. Et ils reçoivent la grâce d'être libérés miraculeusement de la prison, alors qu'ils n'ont pas demandé d'être libérés de la prison. Mais pendant qu'ils louaient, les chaînes sont tombées. Alors, il y a une expression populaire qui dit, et dans des milliers chrétiens, la louange fait tomber les chaînes. Et c'est ça aussi, en fait. L'adoration, comme la louange, nous font obtenir des grâces qu'on n'a peut-être pas demandées et auxquelles on ne pensait peut-être pas.
Bonjour Père Roger, Maman Régine, vraiment merci, c'est l'Esprit-Saint qui parle en vous. Merci pour ces enseignements. C'est Wilson depuis Sainte Monique à Kimbanseke.
Merci à notre frère Wilson.
Bonjour Père Roger et Maman Régine, si je me mets devant l'image de Marie en restant silencieux, cela veut dire que je l'adore?
Et non, parce que en fait le silence, merci beaucoup, le silence c'est une attitude qui caractérise l'adoration, mais le silence peut aussi caractériser d'autres moments de prière, d'autres formes de prière. Pendant la prière de chapelet, on peut aussi garder le silence entre un mystère et l'autre. On peut garder des moments de silence. On peut aussi aller à la grotte silencieusement pour méditer sur un texte de l'Évangile, sur la vie de Marie, mais sans l'adorer. Et donc le silence n'est pas lié exclusivement à l'adoration. Le silence peut aussi être observé dans d'autres formes de prières, des prières autres que l'adoration.
Bonjour à vous, Père Roger, et toute l'équipe. Merci pour la très belle catéchèse. Peut-on faire une lecture silencieuse sur un verset biblique et méditer sur ces versets pendant l'adoration? C'est Kaniki depuis Goma de la paroisse de l'Emmanuel.
Très bien, très bien. C'est-à-dire, il y a des attitudes de prière. Merci à notre frère depuis Goma. Il y a des attitudes de prière qui sont transversales, qu'on peut trouver dans les différentes formes de prière. Et c'est une très bonne question. Ça nous permet l'approfondissement, en fait. La méditation n'est pas nécessairement liée à l'adoration, même si elle fait partie des caractéristiques de l'adoration, mais la méditation peut se faire aussi en dehors de l'adoration. Tu peux méditer ton texte biblique, parfois même dans ta chambre. Tu dis, bon, je médite l'évangile de demain avant de dormir. Ça, ce n'est pas l'adoration, c'est une méditation, simplement. Et tout comme le silence dont je parlais tout à l'heure, ce n'est pas exclusivement lié à l'adoration. Le silence peut être observé aussi dans d'autres formes de prières. Donc la méditation peut apparaître dans une prière de demande. On peut dire, bon, voilà, à présent, gardons un moment de silence. Chacun demande dans son cœur ce qu'il veut. Ou bien dans une prière de supplication, on peut dire aussi aux gens, en silence, supplions le Seigneur. Donc le silence peut apparaître partout. La méditation peut apparaître aussi dans d'autres formes de prière. Elle n'est pas exclusivement liée à l'adoration.
081-99-66-098, écoutons cet auditeur.
Bonjour mon père, bonjour maman Régine, bonjour Radio Maria, merci pour la catéchèse d'aujourd'hui. Mon père, j'ai quelques questions à vous poser concernant les prières des psaumes que vous venez de nous donner. La première question est celle de savoir, est-ce mieux de réciter ou bien de prier tous ces psaumes à la fois? Par exemple, prier le psaume de la prière de supplication, de demande, de louange, d'adoration. C'est bien de les prier au même moment. Et la deuxième question est celle de savoir, c'est mieux aussi de les donner le titre. Par exemple, avant de commencer les psaumes d'adoration, qui est le verset 8 et le chapitre 8. Bon, vous pouvez dire, avant de commencer à prier, vous dites psaume d'adoration et vous commencez. Ou soit vous pouvez directement commencer à entamer la prière. Et ma troisième question, c'est toujours sur les psaumes là. Mon père, est-ce qu'on peut accompagner une intention particulière à ces psaumes? Après, une autre question. Les psaumes de louange, vous avez dit, c'est quel psaume? Je n'ai pas bien retenu le chapitre. Et la dernière question, je voulais savoir sur les psaumes 91, psaume 57 et les psaumes 91, les psaumes 3. C'est quel psaume, mon père? Merci. C'est Ogi Kolela depuis la cathédrale de Bonzola, Bougimaï. Mon père, c'est encore moi, Ogi Kolela, qui revient avec une question sur le baptême. J'aimerais savoir, mon père, est-ce possible dans l'Église catholique d'avoir un baptême à huis clos? Donc, quelqu'un pourrait être baptisé à l'intérieur de l'Église, à huis clos avec le prêtre, même à partir de chez lui, au cure des prêtres là. C'est possible? Et si c'est possible, quelle initiative le prêtre ou les baptisés peuvent suivre chacun?
Merci à Ogi.
Merci beaucoup à notre frère depuis Mbujimaï. Nous saluons tous ceux qui nous suivent à Mbujimaï. La première question, réciter ou prier tous ces psaumes à la fois. C'est ce que j'ai compris, c'est-à-dire... par exemple, le psaume de petit allèle, grand allèle, hein, est-ce qu'il faut prier ça à la fois? Même les juifs eux-mêmes ne priaient pas ça à la fois. C'était situé dans certains contextes. Hein. À Pâques, on trouvait la prière du petit allèle, je crois après la première coupe de vin. Et puis à la fin, pour conclure le repas pascal, on priait le grand allèle, hein, le psaume 135. Donc pour le repas pascal, durant la fête de Pâques tous ces psaumes-là des louanges, hein, petit allèle de 113 à 118. Vous pouvez déjà noter, hein, c'est par rapport à la quatrième question que vous avez posée. Quels sont ces psaumes des louanges, hein, qui sont dans la Bible, que les Juifs appellent allèle, petit allèle ou grand allèle? C'est le psaume du psaume 113 à 118 et puis le psaume 135 qui est des grands allèles. Ça figurait et ça figure encore aujourd'hui dans le repas sacré de Pâques. Hein, ils priaient cela. Alors, durant la fête de la Pentecôte aussi, ils revenaient sur le petit allèle ou bien sûr le grand allèle, ainsi de suite. Donc, ça dépend du contexte liturgique. Alors, maintenant, la première question était assortie d'une nuance. Hein. Est-ce que adoration et louange au même moment, on peut organiser sa vie autrement? C'est-à-dire, nous, dans nos communautés religieuses, on a par exemple, il y a des communautés qui ont l'adoration chaque jour, comme ma communauté. C'est chaque jour qu'on a l'adoration. Mais l'adoration que nous faisons dans nos communautés religieuses ou sacerdotales, ou même dans des communautés dites nouvelles communautés, en fait, ça débouche souvent sur la louange. C'est-à-dire quoi? On expose les saints sacrements, on adore. On peut écouter un texte biblique, on médite à la lumière de ce texte-là. On peut chanter un cantique méditatif devant le saint sacrement. Donc là, on est en train d'adorer. C'est méditatif et puis il y a des moments de silence, des moments de méditation. Et après, quand on arrive maintenant à la liturgie des heures, souvent c'est le soir, on dit maintenant, louons Dieu par les psaumes hein, ou par les vêpres. Donc il y a l'adoration et puis à la fin de l'adoration, vous commencez à prier les vêpres qui ressemble, qui est pratiquement la louange. Parce que vous passez maintenant du silence et puis à haute voix, vous commencez à louer Dieu par les psaumes qui sont prévus dans les bréviaires, si c'est le cas de vêpres, ou bien dans le laude, si c'est le cas de laude. Donc ça peut figurer, hein. Vous pouvez aussi le faire comme expérience dans la communauté paroissiale, on expose les saints sacrements, vous méditez en silence, après c'est la prière des louanges à travers la liturgie des heures ou bien à travers des chants de louanges. Par exemple, dans certaines paroisses, on entend parler des adorations Ngwasuma, qui en fait n'existe pas. C'est un moment de louange. Ça, ce n'est pas l'adoration. Voilà, comme les gens, pour habituer les gens au silence, j'expose les saints sacrements. Et puis, on prie en silence. Et ça, c'est très bien. Après, on remet les saints sacrements, on dit adoration Ngwasuma. Non, c'est le moment de louange. Donc, on a fini l'adoration, maintenant, c'est la louange. Louange avec des chants. Ça fait partie des formes de prière chrétienne. Donc, il faut le nommer comme tel. C'est un moment de louange, c'est pas Ngwasuma. Non, c'est un moment de louange, tandis que l'adoration a comme caractéristique la méditation et le silence. Alors, notre frère a posé aussi une question sur un psaume. Oui, en fait, je vois qu'il est peut-être religieux, bien les séminaristes, hein, ou bien il est peut-être... je ne pense pas qu'il est prêtre, mais... Alors, dans nos communautés, ça dépend des traditions de l'une ou l'autre communauté. Parfois, on dit, avant de prier un psaume ou de chanter un psaume, on dit psaume de louange, psaume d'adoration. On peut ne pas les dire parce que c'est écrit et tout le monde s'en rend compte. Et entre un psaume et l'autre, il y a un moment de silence, ce qui permet à la personne de lire déjà l'intitulé du psaume. Oui, on a écrit par exemple le psaume de David devant ses ennemis. Donc on comprend que c'est un psaume de supplication. Il y a des psaumes où on dit, tel devant les ennemis, ça ce sont des psaumes de supplication. Psaume de louange, psaume de montée au temple, psaume d'adoration. Donc ça figure déjà, on peut lire pour que tout le monde puisse se rappeler de ça. Tout comme on peut aussi laisser, parce que chacun a les textes, même ceux qui utilisent le téléphone. Dans le téléphone, il y a des intitulés des psaumes. Alors, oui, l'intention de prière, oui. Est-ce que les psaumes peuvent être accompagnés par des intentions de prière? Oui, par exemple, les psaumes de demande et de supplication, ça peut être assorti des intentions de prière. Alors, après, il me donne un exercice hein, qui demande beaucoup, les psaumes 91, 57. Si vous avez le bréviaire, ou bien vous allez dans Aleph, n'est-ce pas? Vous téléchargez l'application du bréviaire. Vous allez voir, les psaumes 91... Ça, c'est un psaume de louange. C'est un psaume de louange ou d'adoration. Attendez, je vais vérifier. Hein. Benedictus, c'est louange. Hein. Il faut que je vérifie. Le psaume 91. Maintenant, je ne sais pas dans quelle numérotation il faut trouver ça. Donc, ça, c'est un psaume d'action des grâces. Hein? C'est un psaume d'action des grâces. Ça doit être un psaume d'action des grâces. Il faut voir les contenus. Est-ce que ce n'est pas un psaume de. Oui, c'est déjà l'action. Les malheurs ne pourront te toucher ni la pluie approcher. Donc, c'est déjà un psaume d'action des grâces. Alors, le psaume 57. Il faut voir, nous allons aider notre frère hein, qui est appelé de Mbujimayi, où nous saluons la famille de Papa Kongolou, une famille qui est très proche de Radio Maria Mbujimayi, et même ceux qui sont à Kinshasa, nous les saluons aussi. Papa Félix Kongolou, d'heureuse mémoire, hein, mais sa famille est proche de Radio Maria à Mbujimayi. Bon, voilà, 57, ça c'est un psaume qui doit être de supplication. Ils ont tendu un filet sous mes pas, j'allais succomber, ils ont creusé un trou, ainsi de suite. Et le psaume 3, on va finir par là. Et puis il y a aussi les baptêmes, ça c'est une question qui est très pratique. Hein. Psaume, quand il fouillait, ça c'est un psaume de supplication, le psaume de David fouillant devant Absalom, hein, le coup d'état raté. Là il est en train de supplier son Dieu. Les baptêmes, bon, les baptêmes, on a besoin de celui qu'on appelle ministre du baptême, puis celui qui sera baptisé, et puis les parrains ou la marraine. Ça, c'est important. Je ne vois pas pourquoi ça doit se faire dans la cure. Ça peut se faire dans la chapelle ou dans l'église, c'est ça. Il y a des cas où vous allez, par exemple, dans un orphelinat, dans une maison de vieillards, vous trouvez quelqu'un qui est très malade. Ça, c'est le cas d'un confrère, le père Philippe, hein, qui m'en a parlé une fois. C'est lui qui anime l'émission sur le droit canon. Il va dans l'hospice des vieillards. On lui dit de donner l'onction de malade à quelqu'un qui était mourant. Et puis, bon, il a demandé est-ce qu'il est baptisé. Après, on a dit non, il n'est pas baptisé. Donc, on ne peut pas donner l'onction de malade. Il faut d'abord le baptême. Il a baptisé. Donc, on peut baptiser dans certaines circonstances extrêmes, dans une maison où là vous êtes, pourvu que vous respectiez la liturgie, mais en général, il y a toute une préparation, hein. Il y a la catéchèse à suivre, et puis ça s'est fait dans l'église, ou à la rigueur dans la chapelle.
Bonjour, la fréquence bleue, c'est Dieu merci, Kwaki, depuis la paroisse Sainte-Élisabeth, merci pour la catéchèse, Père. Première question, Père, aujourd'hui, vous verrez le mouvement charismatique catholique imiter ou chanter les cantiques des leaders musiciens des églises de réveil. Est-ce que c'est bon, cette façon de faire dans le mouvement charismatique catholique? Une autre question, comment stopper cette contamination?
Bon, la question que moi, je pose, je me pose et je pose à ceux qui me suivent, est celle-ci. Si le chant fait partie de la doctrine d'une église. Le chant, c'est une prédication, en fait. Voilà pourquoi, dans l'église catholique, il y a toujours la censure qu'on donne. Vous avez composé un chant, ça peut être liturgique ou bien un cantique religieux au sens large du mot. Il y a la commission liturgique de l'archidiocèse ou du diocèse où vous êtes qui doit lire le texte, évaluer, et puis bon, il vous donne l'autorisation ou pas. Parce qu'un chant, c'est une prédication. Ne l'oubliez pas. Tous les chants que nous avons dans nos différentes églises, c'est une prédication. Il y en a qui prêchent par les chants. Si vous me dites, est-ce qu'on peut mettre des cantiques d'autres églises dans l'église catholique pendant nos moments d'adoration et de louange, je vous réponds, je vous pose la même question avec d'autres termes. Est-ce qu'on peut écouter la prédication d'autres églises dans l'église catholique? Est-ce que vous acceptez que, bon, maintenant là, bon, nous sommes pendant l'adoration, une prière de louange dans une paroisse catholique, écoutons une prédication d'une autre église. Écoutons la prédication d'une église de réveil. Est-ce que le curé sera d'accord ou pas? Parce que les chants, c'est une prédication. Même si c'est un chant où il y a seulement deux ou trois paroles, c'est une prédication. Est-ce que vous voulez écouter la prédication des prédications d'autres églises dans l'église catholique? Alors, vous répondez vous-même à la question. Et moi, j'ai dit non. J'ai déjà eu des occasions pareilles, hein, où, bon, on est dans une paroisse, et puis du coup, bon, voilà, nous avons la neuvaine. Et puis du coup, ils diffusent, ils commencent à chanter des chants d'autres églises. J'ai dit au technicien, il faut couper. Et puis j'ai dit au curé, je suis désolé, mais bon, je ne peux pas laisser passer sur nos antennes des chants d'autres églises. On n'a rien contre ces églises, mais comme les chants est une prédication, je préfère écouter les chants catholiques. parce que ce sont des chants à travers lesquels nos musiciens chrétiens sont en train de nous prêcher.
Bonjour Père Roger et Maman Régine, merci pour cette belle catéchèse. Peut-on chanter un chant marial pendant la louange à Dieu? Dieu siège au milieu de la louange, dit-on. Peut-on chanter un chant marial en pleine louange? C'est Jirès depuis Lubumbashi.
Bon, il y a aussi des moments de louange mariale. Hein, donc, par exemple, la famille chrétienne hein, avec le docteur Bokolo, plutôt papa Boutolo, le professeur Boutolo, que je salue en passant, ils organisent des soirées de louange mariale, surtout au mois de mai, souvent au mois de mai. Ils aiment clôturer le mois de mai par une soirée de louange à la Vierge Marie. Alors là, les cantiques de louange à la Vierge Marie sont au rendez-vous. Donc c'est intéressant, donc on peut avoir des moments pareils. Et dans une messe en l'honneur de la Vierge Marie, on peut aussi chanter un cantique en l'honneur de Marie. Ça peut être peut-être durant l'action des grâces ou bien à la fin de la messe. Ça, je laisse ça au liturgiste, mais je crois que ça c'est ce qui est recommandé. Mais quand il faut louer Dieu, eh bien, il faut le louer. Il ne faut pas mettre des chants à la Vierge Marie parce qu'il y a des occasions pour louer la Vierge Marie. D'ailleurs, on la loue à la fin de la messe. On loue Dieu avec Marie à la fin de la messe. Lorsque, après la messe, on dit, bon, maintenant chantons les Magnificat, hein, chantons les Catena. C'est en ce moment-là qu'on loue Dieu avec la Vierge Marie ou bien on loue la Vierge Marie pour les merveilles que Dieu a accomplies en elle.
Je réponds à la question du Père par non. On ne peut pas écouter la prédication des tiers dans l'Église catholique.
Alors, évitez les chants des cantiques religieux d'autres églises. Évitez cela. Évitez. Nous avons des beaux chants. Et nous avons des musiciens qui sont très compétents. Des Mbolé, de qui encore des Balenza, des Jules Deschamps, qui encore les sont nombreux. L'abbé qui est parti en Centrafrique là. L'abbé Condé, n'est-ce pas? Qui était proche de Radio Maria aussi, et qui compose. Il y a beaucoup de prêtres, des laïcs, hommes et femmes, qui composent des beaux cantiques dans l'Église catholique. Il faut les valoriser. Il faut les valoriser. Éviter de mettre les chants d'autres églises. Ce sont nos frères et sœurs, mais nous devons être vrais. L'hypocrisie n'est pas chrétienne. Nous devons être vrais en disant que, bon, nous vous aimons, mais vos chants, nous n'allons pas mettre ça dans l'Église catholique. Chantez ça chez vous, nous chantons les nôtres, mais nous sommes des frères.
Comment stopper cette contamination?
Ah, mais c'est la tâche des prêtres que nous sommes. Moi, je veille ici à la Radio Maria pour qu'il n'y ait pas ces cantiques-là, d'autres églises. Je mets ce qui est catholique et chacun doit veiller dans sa communauté, dans sa paroisse pour qu'on mette ce qui est catholique. Il faut éduquer les chrétiens dans ce sens-là parce qu'à travers la musique, on prêche. Les chants d'une autre église, c'est la prédication d'une autre église.
Bonjour Maman Régine, bonjour Père Directeur Roger, ainsi qu'à tous les auditeurs de la fréquence mariale. Je profite de cette belle occasion où nous parlons de l'adoration et de la louange pour signaler à la communauté des Banaya Mama que chez nous, à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus à Gombe, nous disposons d'un oratoire bien équipé où le Saint-Sacrement est exposé 7 jours sur 7, de 7h à 19h. Nous souhaitons la bienvenue à toute personne qui désire venir.
Très bien.
Se recueillir et passer un moment d'intimité avec le Seigneur. Fraternellement, Mike Mbowando, le Magnifique.
C'est merveilleux. Félicitations hein, à cette paroisse-là, Sacré-Cœur de la Gombe, parce que il y en a dans beaucoup de diocèses, hein, sous d'autres cieux, même chez nous, je crois. Il y a des chapelles ou des oratoires d'adoration perpétuelle où on peut aller adorer quand on veut. Et il s'arrête à 19h. Oui. Sous d'autres cieux, parfois, c'est 24h sur 24. Je vois Radio Maria Allemagne, Radio Reb, ils ont 3 jours de marathon. Et les marathons est souvent la réussite. Une réussite incroyable sur le plan spirituel, pastoral et même en termes de collecte de fonds. Ils collectent beaucoup. Quel est le secret? Entre autres, il y a l'organisation. Les Allemands sont bien organisés, sont des travailleurs. Cette année, on était au marathon en Allemagne avec le cardinal Fridolin, notre père archevêque, et Monseigneur Edouard Isango. On était à 3 parmi les Congolais invités à Balderschwang, diocèse d'Augsbourg en Allemagne. Et ils ont vu, on a vu comment ils s'organisent. Mais au-delà du travail, de l'organisation pratique, il y a l'adoration perpétuelle. Dès que le marathon commence, on expose les Saints Sacrements dans la chapelle de Radio Reb. Et de la première minute du marathon jusqu'à la dernière minute, les saints sacrements restent là-bas. On va adorer à tour de rôle pendant 3 jours. Adoration perpétuelle pendant 3 jours. Tu peux aller à 1h du matin, à minuit, à 3h, il y aura toujours quelqu'un là-bas. Parce qu'ils se répartissent. Ils mettent les noms sur la liste. Et donc, c'est très beau. Et voilà, la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe, coup de chapeau. J'ai déjà entendu ça depuis quelques semaines, qu'ils ont cette initiative-là, un oratoire où le Saint-Sacrement est exposé pour l'adoration. Parce qu'il faut créer une culture. On dit, bon, les gens n'aiment pas les silences, mais est-ce que nous créons cette culture-là? Nous leur donnons l'opportunité de prier en silence. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les silences, mais ils n'en ont pas l'opportunité. Ils n'ont pas l'opportunité de prier en silence. Il faut leur donner l'opportunité d'aller adorer en silence. Et ça, c'est très bon, cette initiative des jésuites, hein, de la paroisse jésuite du Sacré-Cœur de la Gombe.
Merci, la fin, un dernier mot.
Mais la joie de partager avec vous ces quelques idées, c'est le patrimoine de l'Église catholique. Voilà pourquoi nous insistons là-dessus. C'est nous, catholiques, vous et nous, qui devons protéger ce patrimoine et puis le promouvoir. L'Église catholique nous conseille depuis le début, parce que même le père de l'Église, Saint Jean Chrysostome, Hilaire de Poitiers, qui est encore Augustin d'Hippone, parlait déjà de l'adoration à l'époque. Parlait de l'adoration, de la louange. Donc l'Église propose aux chrétiens, à ses fidèles, de promouvoir les différentes formes de prière. Il n'y a pas que la prière de demande et de supplication, il y a aussi l'adoration qu'il faut promouvoir. Dans des communautés, dans des paroisses, on doit avoir des moments d'adoration. Il y a aussi la louange qu'il faut promouvoir, avoir des moments où nous allons louer ensemble. Évidemment, il y a aussi des moments de prière, de demande, de supplication. C'est important. Pendant on organise une neuvaine. Mais on peut dire, bon, aujourd'hui, le deuxième jour de la neuvaine, nous allons adorer. Aujourd'hui, c'est l'adoration. Venez, il y aura la prédication, bien, il y aura l'adoration, après l'adoration du Saint-Sacrement, la prédication. Il y a d'abord la prédication, après l'adoration du Saint-Sacrement. Il faut promouvoir les différentes formes de prières que l'Église propose à ses fidèles depuis l'Antiquité pour préserver les traditions catholiques. Merci.
Merci beaucoup, Père Roger. Merci à vous aussi, auditeurs de Radio Maria, d'avoir été nombreux à suivre et à participer à travers vos questions à cette émission. Merci à Clément Moulopo qui était à la réalisation. La prière pour clôturer cette première partie.
Volontiers, nous allons prier, n'est-ce pas, avec le psaume 8, un psaume d'adoration. Nous allons prier de façon méditative, hein, en silence. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est important parfois de prier comme cela, parce que c'est un psaume d'adoration. Et nous allons nous tourner vers le Seigneur dans la méditation, en toute humilité, parce que l'adoration, c'est la reconnaissance de la Seigneurie de Dieu, sa souveraineté, sa transcendance. Reconnaître qu'il est le Créateur de tout ce qui est visible et invisible. Et surtout se reconnaître en toute humilité comme étant pauvre créature, et qui a besoin de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Reçois notre adoration, Seigneur, avec ce psaume 8. Nous te disons, Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Par la bouche des enfants de tout petit, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, des couronnants des gloires d'honneur. Tu l'établis sur l'œuvre de ta main, tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours,
dans le siècle des siècles. Amen.
Seigneur, fais que cette adoration qui nous fait tourner vers toi nous aide à garder nos cœurs tournés vers toi. Que cette adoration détache nos cœurs des idoles de ce monde. Que cette adoration attire sur tes fidèles, sur les malades, sur les prisonniers, sur les victimes de la guerre, sur nos frères militaires qui sont au front, sur les pauvres, les nécessiteux, sur tous ceux qui souffrent, des grâces dont chacun a besoin. Amen.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.